Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel dans lequel Aurélie et moi abordons une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Bonjour Aurélie.
Bonjour Rémi.
Dans cet épisode, on va s'intéresser à Las Vegas que nous avons découvert à l'occasion d'un road trip que nous avons effectué dans l'ouest des États-Unis cet automne. C'était la deuxième ville dans laquelle on mettait les pieds après Los Angeles. Autant dire que Las Vegas et Los Angeles n'ont rien à voir. Las Vegas est une ville très particulière et on avait 2 jours à y passer. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Las Vegas, c'est pas l'étape que j'attendais avec le plus d'impatience dans notre road trip. C'est une destination qui baigne dans une certaine aura. On a tous vu un film ou l'autre qui prend décor dans ces fameux casinos. Et je dois avouer que Ocean's Eleven, c'est d'ailleurs un des films qui a marqué ma jeunesse. Avec ma sœur, on connaissait les dialogues par cœur. Et ça ajoutait un petit peu à cette aura de la ville dans mon cas. J'avais donc une espèce de fascination, un petit peu comme un papillon devant des lumières. Mais en même temps, les casinos, c'est pas mon truc. Donc j'avais cette fascination sans réelle envie d'aller découvrir le lieu. Et puis j'ai appris que le Cirque du Soleil était implanté dans plusieurs casinos de Las Vegas. Et là, c'est ça qui a fait pencher la balance, parce que le Cirque du Soleil, c'est un grand, grand rêve de petite fille. Je rêvais d'aller voir un de leurs spectacles depuis des années. Et du coup, c'était l'occasion en or pour pouvoir le faire, dans ce décor assez incroyable. Donc chaque spectacle du Cirque du Soleil a une salle dédiée qui a été construite spécialement pour le show qu'elle accueille. Et je pense que ces décors sur mesure doivent rajouter un petit quelque chose au spectacle. Après coup, mon bilan de Las Vegas, c'était vraiment une parenthèse à part dans notre voyage. Quand on est à Las Vegas, on est dans une espèce de bulle à part. J'imaginais cette ville complètement folle dans la surenchère et l'extravagance la plus totale. Et une fois sur place, ça allait encore au-delà de ça. C'était encore plus fou que ce que j'avais imaginé. Et oui, donc on se laisse un petit peu emporter par la folie de Las Vegas avec ses décors plus incroyables les uns que les autres dans ses casinos complètement fous. C'est une parenthèse qui n'est pas désagréable au cours d'un voyage. Donc j'ai beaucoup parlé de Vegas, mais dans cet épisode, nous allons également parler de la Valley of Fire, qui est une petite vallée accessible très facilement depuis Las Vegas. À la base, c'était un nom griffonné vite fait dans le programme, en mode au cas où on a un petit peu de temps. Et finalement, on n'a fait aucune des visites que j'avais repérées dans Las Vegas et on a juste été dans ce parc. Je crois qu'on peut dire qu'on ne l'a pas regretté. Ça a été notre première rencontre avec les Cailloux Rouges. C'est vrai que quand on pense au parc de l'Ouest américain, le Grand Canyon, Monument Valley, on a cette image de roches rouges et la Valley of Fire, c'est la première fois qu'on les voyait. Les paysages de la Valley of Fire sont vraiment magnifiques avec ces roches rouges et blanches qui sont très contrastées et vraiment superbes. Ça a été une surprise totale et un très beau moment. De mon côté, c'était ma deuxième fois à Las Vegas et je gardais un très bon souvenir de ma première fois sur place, au point que je le classe encore maintenant dans les top 5 de mes voyages les plus marquants. Pourtant, à Las Vegas, on n'est pas forcément la cible, on n'est pas prédisposé à jouer aux machines à sous, on s'en tient généralement assez loin, on n'est pas non plus des grands consommateurs d'alcool. Du coup, par rapport à son surnom de ville de tous les péchés, on n'est clairement pas ceux qui vont le plus profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Et pourtant, j'avais hâte d'y retourner et de redécouvrir la ville presque 10 ans après ma première visite. En 10 ans, je dois dire que la ville n'a pas beaucoup changé, et donc j'ai vite retrouvé mes marques sur place. Ça ne m'a pas empêché de repartir de là un peu déçu, contrairement à toi, mais je pense que c'est parce que moi, de mon côté, le côté découverte était passé. J'étais plus aussi surpris par le lieu. Mais avec le recul, je pense pas que ce soit la ville qui m'ait déçu en elle-même. Je pense que c'est plutôt notre mode de voyage et la façon dont on l'a découvert cette fois-ci. Parce que autant la première fois que j'y étais allé, c'était sur le mode du city trip et c'était parfait. Las Vegas est une ville qui se prête très bien à passer 3 ou 4 jours sur place. Autant ici, s'y arrêter presque en coup de vent durant un road trip, je trouve ça très frustrant. On n'a pas eu le temps d'y faire tout ce que j'aurais voulu et j'ai eu le sentiment, encore plus qu'ailleurs, qu'on était toujours dans l'urgence et la fatigue déjà accumulée du road trip n'aidait pas non plus. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai vécu notre départ de Las Vegas comme une délivrance et que j'ai autant apprécié de découvrir la Valley of Fire où on s'est arrêté juste après. Et là, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce parc.
Donc pour toi, ton coup de cœur, c'est la Valley of Fire.
Oui, carrément.
Et pourtant, on n'avait pas prévu d'y aller, comme tu le disais. C'est grâce à Fanny, l'amie avec laquelle on voyageait, qu'on est allé jusque-là. Elle avait été convaincue en regardant des photos sur Internet. Sinon, je pense qu'on serait resté à Vegas. J'avais l'impression qu'on n'avait pas encore tout fait dans la ville et j'y serais bien resté encore une demi-journée pour t'emmener faire le tour de quelques casinos. En y réfléchissant, c'était pas une bonne idée parce que l'idéal pour découvrir Las Vegas, c'est quand même une fois que la nuit est tombée. C'est là que la ville prend vraiment vie. Si on avait reparcouru la ville en matinée, bah, tout le monde a un peu la gueule de bois, donc c'est pas vraiment voir Las Vegas sur son meilleur jour. Du coup, on s'est facilement laissé convaincre par Fanny pour aller voir la Vallée du Feu, sans savoir ce qu'on allait y trouver. Et ça a été la surprise totale. Le parc est vraiment magnifique, au point que lorsque je regarde encore aujourd'hui les photos que j'y ai prises, j'ai l'impression de ne pas en avoir raté une seule. Et pourtant, je ne suis pas toujours très bon en photo. Je suis persuadé même que ces photos, ça ne reflète pas la réalité du lieu. Alors, est-ce qu'on a eu de la chance au niveau de la météo ou de la lumière ce jour-là? Peut-être. On y restait jusqu'au soleil couchant et voir les gros rochers rouges comme ça baignés dans une lumière orangée, c'était un spectacle à la hauteur de ceux qu'on a pu voir de Las Vegas. C'était vraiment magique. Et toi, ça a été quoi ton coup de cœur?
Alors moi, même si j'ai vraiment aimé la Valley of Fire, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, mais mon coup de cœur, ça reste le Cirque du Soleil. Mais je pense que je ne suis pas la plus objective sur le sujet. Comme je l'ai dit, c'était vraiment un rêve de petite fille qui est devenu réalité. Donc on a été voir le spectacle haut, qui prend place dans une salle dédiée du Bellagio. C'était grandiose et magnifique. Enfin, la salle a été construite spécialement pour accueillir ce spectacle. Je ne sais pas du coup comment se passent les spectacles itinérants du Cirque du Soleil, mais ici, la salle dédiée était vraiment magnifique. Et le spectacle était à la hauteur de ce que j'espérais. Et je suis repartie de là avec un sourire jusqu'aux oreilles. Très très contente d'avoir pu réaliser ce rêve. Et maintenant, j'espère que j'aurai de nouveau la chance de voir un de leurs spectacles parce que j'ai vraiment été conquise par ce que j'ai vu.
Vous ne vous sentez pas bien?
Ça doit être la chaleur.
Ce qui vous guérirait, c'est un week-end à Las Vegas. C'est le meilleur des traitements.
Las Vegas, on l'a déjà dit, on y a passé 2 jours, moins le temps qu'on a passé à la Valley of Fire. Donc au final, on est resté assez peu de temps dans la ville elle-même et on n'a pas vraiment eu le temps de faire des visites. Il faut dire que voir la ville et passer à travers les différents hôtels, les différents casinos, ça prend déjà beaucoup de temps. Et rien que de faire le strip sur toute la longueur, ça peut facilement occuper une journée. Le strip, c'est le boulevard principal qui traverse Las Vegas.
Comme je l'ai dit en introduction, ça reste quelque chose à faire parce que ces casinos sont tous tellement impressionnants et c'est assez incroyable et bluffant. Je pense à celui dont la thématique est Paris. Je suis rentrée dedans et on a l'impression d'être à Paris. Il y a un trompe-l'œil au plafond. On se croirait dans une nuit parisienne. C'est assez fou. Et ils sont tous comme ça.
Moi, mes préférés, c'est effectivement celui de Paris et celui sur Venise, où c'est pareil, avec les gondoles qui passent à l'intérieur. Il y a la tour qu'il y a normalement sur la place Saint-Marc qui est là à l'extérieur. C'est vraiment bluffant.
Bon, on reste bien évidemment dans les pires stéréotypes américains, donc ça a un petit côté amusant pour les paysages culturels qu'on connaît plus, mais c'est à voir. Bien évidemment, le strip, c'est toujours rigolo de le remonter jusqu'au fameux signe Welcome to Fabulous Las Vegas, assez emblématique du lieu. Alors je l'imaginais très haut. En fait, il est assez court sur pattes, ce signe. C'est un peu rigolo quand on y arrive. Et forcément, qui dit lieu emblématique dit file de touristes attendant pour se prendre en photo devant.
J'étais assez surpris de voir qu'il y a autant de monde qui attendait pour faire la photo iconique devant ce panneau. Il y a même une file d'attente qui est prévue pour quoi. La zone est aménagée pour accueillir une file d'attente.
Après notre promenade sur le strip, on a été passer une après-midi en mode farniente à la piscine de l'hôtel. Parce que c'est un petit peu aussi le but de notre passage à Las Vegas, faire une petite respiration dans le road trip, un petit peu plus cool. Finalement, on est sorti de là tout aussi crevé qu'avant, mais quitte à être à Las Vegas dans un bel hôtel, autant aller profiter de la piscine. Donc on est allé boire un mojito au soleil. En octobre, les températures étaient vraiment limites, il aurait pas fallu 1 degré de moins. Il n'y avait pas trop de soucis, mais ça restait une parenthèse assez bienvenue et assez chouette dans le voyage. Et puis les enfants étaient très contents de pouvoir aller un petit peu nager.
Il faut noter que la plupart des hôtels de Las Vegas disposent de piscines accessibles en priorité à leurs clients, avec un plus ou moins grand nombre de bassins différents. Dans certains, ça s'apparente à une espèce de parc aquatique. En plein été, ça peut vite devenir n'importe quoi, mais ici en automne, c'était relativement tranquille. Sauf exception, je pense que les piscines ne sont pas chauffées. Il y a les jacuzzis qui le sont toujours, mais les piscines extérieures ne le sont pas. Ce qu'on a découvert aussi à l'occasion du reste de notre road trip dans l'Ouest, c'est que les piscines, même intérieures, ne sont pas chauffées. Donc si vous voyez un hôtel avec une piscine intérieure, ne comptez pas forcément vous y baigner en plein hiver. L'eau sera froide. On a dû quitter le bord de la piscine ensuite pour se préparer pour aller voir le spectacle du Cirque du Soleil, dont tu as déjà parlé. Dans tous les cas, quand on est à Vegas, il faut vraiment en profiter pour passer une soirée à aller voir un spectacle. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Quand on souhaite aller voir le spectacle de Cher, de Céline Dion, ou du Cirque du Soleil, ou même, moi j'avais vu la première fois, celui du Roi Lion. Il faut bien se dire que les spectacles sont en anglais. Si on ne maîtrise pas l'anglais, il vaut mieux mettre certains spectacles de côté et se cantonner à ceux où il y a finalement assez peu de dialogue. À ce titre, ceux du Cirque du Soleil sont la plupart du temps compréhensibles, même pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'était le cas ici de O, qu'on a pu aller voir avec les enfants, mais ce serait aussi le cas de spectacles sur les Beatles ou sur Michael Jackson, je pense. Comme toi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le spectacle du Cirque du Soleil. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et j'étais content quelque part de retrouver cet aspect un peu cirque, mais cirque moderne, avec, bon, il y avait quand même des clowns, mais il y avait aussi des acrobates, et le tout dans un univers fantasmagorique qui apportait une touche vraiment très différente de l'habituel chapiteau de cirque qu'on connaît tous. Et je pense que je vais vraiment avoir du mal maintenant à retourner vers un cirque plus traditionnel en ayant vécu ça. Donc c'est vrai que si j'ai l'occasion de retourner voir un spectacle du Cirque du Soleil, je le ferai aussi avec plaisir.
En ressortant du spectacle du Cirque du Soleil, Las Vegas s'est un petit peu révélée à nous sous un autre visage, la ville de nuit. Et c'est vrai que ça change complètement l'apparence des lieux. Les lumières s'allument et là, enfin, pour le coup, il y en a partout. On a des écrans publicitaires qui font la taille d'immeubles, littéralement.
Et puis même au niveau de la fréquentation, enfin que ce soit dans les casinos ou dans la rue, soudain il y a beaucoup plus de monde dans les casinos, ou en tout cas dans le Bellagio où on est passé à ce moment-là, les gens étaient en costume, en robe de soirée quasiment, et il y avait du monde partout, on devait quasiment bousculer les gens pour se frayer un chemin, là où en pleine journée il n'y avait personne. C'est vraiment comme si les gens se réveillaient pour sortir la nuit.
Un truc assez marquant dans les casinos, il n'y a aucun repère temporel. On est à l'intérieur, alors déjà il y a aucune indication d'où se trouve la sortie, c'est labyrinthique, tout est fait pour vous maintenir à l'intérieur, c'est une sensation très étrange. Il n'y a pas d'horloge, pas de fenêtre, c'est une lumière tamisée en permanence, et on sait que c'est la nuit parce que d'un seul coup, bah, y a plein de monde. Et sans ça, bah, il pourrait être n'importe quelle heure, on n'a aucun repère.
Pour aller avec ça, il faut aussi préciser qu'il y a beaucoup de spectacles, même les spectacles gratuits, comme les fontaines du Bellagio, qui ne fonctionne qu'à partir d'une certaine heure en soirée. Je pense que c'est aux alentours de 20h généralement que les fontaines s'activent. Et du coup, si on ne visite Las Vegas qu'en journée, c'est toutes des choses aussi à côté desquelles on passe. Du coup, on a un peu l'impression d'être dans une ville qui ne dort jamais. Et je pense que c'est un peu ça en fait. Las Vegas, c'est vraiment une ville qui ne dort jamais.
Donc le lendemain, on a pris la direction de cette fameuse Valley of Fire. Il faut compter un peu plus d'1h30 de route depuis Las Vegas pour s'y rendre. Le parc est assez restreint. En voiture, on a très vite fait le tour. Il y a une scenic drive qui permet justement d'en faire le tour et de déjà bien apprécier les paysages.
C'est au cours de ce scenic drive qu'on a eu l'occasion d'apercevoir des bouquetins sur une des formations rocheuses sur le côté. Ils étaient assez loin, mais on a quand même pu les voir assez bien. C'est l'occasion de rappeler que dans ce genre de parc, qu'ils soient nationaux ou ici un parc d'État, on voit régulièrement des animaux, et dans celui-là y compris.
Oui, donc on a pu comme ça rajouter les bouquetins à notre grand bingo des animaux des parcs, après les cerfs, les ours, les écureuils et les pivers. On a également vu, tant qu'on parle des animaux, des petites souris des sables qui sont venues jouer près de nous pendant qu'on mangeait, ainsi que des espèces de poules perdrix. Je ne sais pas très bien ce que c'était comme oiseau. Voilà. Même si on est de nouveau dans des paysages assez désertiques et arides, encore une fois, les animaux sont bien présents pour le plaisir des yeux. Notre premier arrêt dans la Valley of Fire a été les White Domes. Donc, ce sont des formations rocheuses rouges et blanches qu'on peut observer dans le parc.
On ne s'y est pas aventuré très longtemps parce que le temps qu'on avait à consacrer au parc ne nous permettait de faire qu'une seule balade vraiment à fond. Et donc on a préféré retourner en arrière pour aller faire la balade de Rainbow Vista.
En même temps, on n'avait pas l'impression de manquer grand-chose en renonçant à la balade. Déjà, rien que du parking, qu'en faisant une petite centaine de mètres comme on a fait, on voit déjà pas mal de paysages. Et c'est vrai que ce qu'on voulait voir, c'était vraiment Rainbow Vista. C'est une très belle promenade qui permet justement de se promener au cœur de ces fameux rochers et qui mène à une espèce de mini-wave. The Wave, pour ceux qui ne situeraient pas, c'est une très célèbre formation de grès en Arizona, qui est dans un parc à l'accès très compliqué. Et c'est un site très très fragile, et il n'est accessible que par tirage au sort, donc il faut une chance pas possible pour y aller. Donc nous, on avait déjà raté le coche pour le tirage au sort, donc on était éliminés avant même de tenter notre chance. Donc voilà, dans la Valley of Fire, il y a une formation qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus restreinte, mais qui y ressemble et qui est vraiment très jolie, sur laquelle on s'est posé pour admirer le coucher du soleil. Voir ces rochers rouges s'enflammer dans la lumière du crépuscule, c'était un spectacle magnifique.
Ce qui était rigolo quand on était dans la Valley of Fire, c'est qu'on a aussi croisé des mariages, parce qu'il faut savoir que c'est un endroit dans lequel les gens qui se marient à Las Vegas viennent faire leurs photos de mariage. Faut pas s'étonner de voir des gens en costume et en robe blanche, c'est normal. Une fois le soleil couché, bah nous on a repris la route, on a continué notre chemin vers le parc de Zion, dont on vous parlera la prochaine fois. C'était déjà la fin pour nous de nos 2 jours dans la région de Las Vegas. Même si on ne l'a pas fait cette fois-ci, outre la Valley of Fire, il y a d'autres excursions qui sont possibles depuis Las Vegas, et je pense notamment au Grand Canyon. On peut y aller en voyage organisé, et dans ce cas-là, on fait une halte au Hoover Dam, un des plus célèbres barrages américains. Mais on peut aussi partir de Las Vegas en hélicoptère pour survoler le Grand Canyon si on en a les moyens. Il y a plusieurs options qui sont possibles depuis Las Vegas, si on a plus de temps à passer sur place.
Chérie, c'est Las Vegas, on perd la notion du temps dans ces casinos. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge, il est sûrement dans un rush.
On va faire un petit point sur les aspects pratiques liés à Las Vegas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment au niveau des déplacements. La première fois que je suis venu à Las Vegas, c'était en avion. Il y a un aéroport qui est situé vraiment aux abords de la ville. Il faut juste prendre une navette pour rejoindre un hôtel, ça se fait très facilement. Et une fois dans la ville, on peut très bien se déplacer uniquement à pied. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs trams qui relient entre eux les hôtels de Las Vegas. Nous, on a pris ceux qui reliaient les casinos du groupe MGM et qui étaient gratuits. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'à certains arrêts, on ne peut les prendre que dans un sens. Parfois, il faut les prendre dans un sens, aller jusqu'à un hôtel pour les reprendre dans l'autre sens. C'est un peu fatigant, mais c'est le prix à payer si on ne veut pas trop marcher. Et l'autre chose à noter, par contre, c'est que si on vient à Las Vegas en voiture, faut payer. Parce que c'est le seul endroit durant tout notre road trip où on a dû payer le parking de l'hôtel. Ce qui prouve, s'il fallait encore le dire, qu'à Las Vegas, tout tourne autour de l'argent.
Tant qu'on parle d'argent, se loger à Las Vegas, c'est pas spécialement le meilleur marché, surtout si on veut loger sur le Strip. Donc on le rappelle, le Strip, cette grande avenue centrale. J'ai un peu fait ma princesse, j'ai dit quitte à aller à Las Vegas, on dort sur le Strip dans un grand casino. Ça faisait partie de l'expérience, je trouve. Donc c'est pas compliqué, c'est le pire rapport qualité-prix qu'on ait eu du séjour.
Il n'y a même pas un frigo dans la chambre.
C'est le seul hôtel, on n'avait pas de frigo dans la chambre, effectivement. Si vous comptez venir à Las Vegas et loger sur le Strip comme nous, sachez qu'en semaine, les prix ont tendance à être beaucoup plus bas qu'en week-end. En week-end, ça monte, mais ça atteint des sommes parfois frôlant le ridicule vu les chambres des hôtels. Par contre, si vous avez un budget très serré ou si vous n'avez simplement pas envie d'aller sur le Strip, il y a de nombreux hôtels un petit peu plus excentrés qui pratiquent des tarifs beaucoup plus démocratiques et abordables.
Au niveau des hôtels qui sont sur le Strip, on n'a pas vraiment de conseils à vous donner par rapport à l'un ou à l'autre. Je pense qu'il faut vraiment faire votre choix par rapport à la situation de l'hôtel, par rapport aux choses que vous voulez aller voir, et notamment au spectacle. Mais je ne pense pas qu'il y ait un hôtel qui soit vraiment mieux qu'un autre.
Non, surtout qu'on rappelle que si les hôtels ont chacun des thèmes différents, les chambres, elles, sont toutes bateaux et standards. Il n'y a pas de décoration particulière parce que vous êtes à Paris, à Venise ou en Égypte. La chambre en elle-même sera neutre. Peut-être les grandes suites sont peut-être plus thémées, mais les chambres de base, elles, se valent toutes, peu importe l'hôtel. Point de vue nourriture, Las Vegas, c'est très cher. De nouveau, sur le Strip, c'est très cher. Si on s'éloigne un petit peu, on redescend en prix, mais ça commence à faire beaucoup de marches. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les hôtels, mais notre hôtel n'avait pas de petit déjeuner compris. Ce qui fait que le matin, on devait se mettre en quête d'un petit déjeuner.
Les hôtels ont des restaurants qui fonctionnent sous forme de buffets. Et il y a les buffets qui sont pour les petits déjeuners, pour le midi, pour le soir. Et donc, de mon expérience, le petit déjeuner n'est jamais compris dans le prix de la chambre. Il faut à chaque fois payer le prix d'un buffet en plus.
Voilà, donc on revient au pire rapport qualité-prix de notre séjour. C'était pas une blague. Justement, tu parles des buffets. Un soir, on a testé un de ces fameux buffets avec le buffet du Bellagio. C'est cher, mais c'est complètement dingue. C'est l'abus dans tous les sens. J'ai jamais vu autant de sortes de nourriture mises côte à côte. Il faut presque 10 minutes pour faire le tour du buffet et voir tout ce qu'il y a. Et t'arrives au bout, t'as oublié ce qu'il y avait au début. T'es bon pour refaire un tour pour te décider à ce que tu vas mettre dans ton assiette. Ça, c'est incroyable.
Tous les types de cuisine sont représentés. Je pense que c'est l'endroit, même au niveau de tout ce qu'on a vu dans notre trip, où il y avait le plus de choix au niveau type de cuisine. Même en parcourant les différents restaurants possibles dans chaque ville où on est allé, je pense qu'on n'a trouvé pas autant de choix.
Je ne suis pas sûre que ce soit spécialement une bonne chose, mais c'était incroyable et c'était bon.
Oui, c'était plutôt bon. Et là, une fois qu'on a payé le prix du buffet, on peut le rentabiliser. Je veux dire, on a accès à l'entrée, aux plats, aux desserts, aux boissons, même à certaines boissons alcoolisées sous certaines réserves. Donc, il y a moyen de le rentabiliser, mais il faut vraiment avoir faim. Et finalement, c'est ce que je conseillerais si on a un budget serré et qu'on veut essayer de rentabiliser au maximum les buffets ou même simplement les restaurants, c'est d'essayer de faire deux repas en un. Par exemple, le matin, essayer de manger plus tard en faisant un brunch plutôt qu'un petit déjeuner. Comme ça, on mange à la fois pour le matin et pour le midi. Et il y a moyen de manger assez pour tenir jusqu'au soir. C'est comme ça qu'on peut économiser quelques dollars.
Par contre, pour la Valley of Fire, il faudrait être un petit peu plus prévoyant. Il n'y a aucune solution pour manger sur place. C'est le premier parc où on allait, où il n'y avait aucun restaurant ou supérette dans le parc. Donc, pensez à vous arrêter en route, pas trop tard, parce que plus vous vous éloignez de Las Vegas, plus les solutions s'amenuisent, et prendre des sandwichs, sinon vous allez vous retrouver à devoir jeûner dans le parc.
Du coup, on ne va pas revenir en détail sur le coût de la vie. Je pense qu'on a bien fait passer le message. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Maintenant, c'est une expérience et c'est extravagant jusque dans les prix, que ce soit le logement, que ce soit la nourriture. Tout coûte cher. Et bien sûr, on n'a pas essayé de jouer de l'argent dans les machines à sous, ou alors très peu. Donc si c'est le truc que vous voulez essayer, il faut prévoir en plus un budget pour ça. Et là, par contre, ça peut vite, vite dégénérer. Notez au passage que les mineurs n'ont pas le droit d'approcher les machines à sous. Déjà, les enfants n'ont le droit de pénétrer dans un casino que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Si vous avez l'air un peu trop jeune, ce ne serait pas étonnant qu'on vous demande votre carte d'identité si vous entrez dans un casino. Oui, toi, ça ne t'est pas arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Et donc, c'est d'abord un parc d'attractions pour les adultes, il faut le savoir.
Si vous êtes avec des enfants, vous verrez au sol, il y a des bandes de couleurs différentes selon si vous êtes dans un couloir ou dans une zone à machine. Et les enfants n'ont le droit de marcher que sur la couleur des couloirs. Ils ne peuvent pas rentrer dans les zones de machine. C'est apparemment assez strict. Bon, après, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Moi, j'ai joué 1$ dans les machines à sous pour le fun. Il faut choisir sa machine à sous. On peut en trouver qui permettent de parier 1 centime à la fois. Donc avec 1$, on s'amuse une demi-heure. Et voilà, une fois que le dollar est passé, on arrête, on passe à autre chose. Ça permet quand même de tester. Mais bon, c'est pas mon truc.
A contrario, l'entrée du parc de la Valley of Fire est assez peu chère. Il faut savoir que comme c'est un state park et pas un parc national, le pass America the Beautiful ne fonctionne pas et il faut donc forcément payer le droit d'entrée. Il faut compter 10$ par véhicule, donc c'est vraiment pas la ruine. Et comme on l'a dit, ça vaut vraiment le coup. Avant le voyage, il n'y a pas grand-chose à prévoir. Si vous y allez directement, il faut toujours prévoir de faire l'ESTA avant de partir. Comme on l'a déjà dit, il faut le faire au moins quelques jours avant le départ. Et alors l'autre chose qu'on a découvert, c'est qu'il y a une application qui s'appelle MyVegas, auquel on peut jouer sur Facebook et sur mobile, et qui est en fait une espèce de machine à sous. En fait, c'est plusieurs machines à sous réunies en un seul jeu. Une machine à sous gratuite, on n'a pas besoin de vraiment mettre de l'argent dedans. Et donc c'est un jeu qui permet de gagner des réductions et des bons, voire des jetons pour les casinos à Las Vegas. Des réductions et des bons, que ce soit pour des restaurants, que ce soit pour des nuits d'hôtel. On peut aussi gagner des jetons pour les casinos à Las Vegas. Il faut jouer assez longtemps pour espérer pouvoir gagner une nuit d'hôtel, mais c'est possible. Par contre, il faut pouvoir valider son bon ou sa réduction le plus tôt possible. C'est vrai que nous, on y a joué jusqu'au dernier moment, et je pense que c'est la veille de notre départ, on a essayé de réserver une nuit d'hôtel, et là, c'était trop tard, en fait, parce qu'il y a un certain nombre de nuits ou un certain nombre de réductions à un restaurant qui sont possibles, et quand on arrive trop tard, toutes ces réductions et toutes ces nuits d'hôtel sont déjà parties. Donc, il faut le faire assez longtemps à l'avance. Et il faut prévoir aussi de valider les réductions avant votre départ, parce que l'application utilise la géolocalisation et donc limite les offres pour les utilisateurs qui sont déjà à Las Vegas. Donc c'est toutes des choses qu'il faut faire bien avant de partir. Idéalement, même si vous prévoyez votre départ 6 mois à l'avance, je pense que c'est vraiment le bon timing. Si c'est pour partir la semaine qui suit, c'est vraiment trop tard. Et puisqu'on parle de partir, à quelle période est-ce qu'il faut partir ?
Las Vegas, je pense que ça reste intéressant toute l'année. Maintenant, si vous voulez profiter des piscines, octobre, ça me semble être la dernière limite. Je l'aurais dit, 1 degré de moins, j'aurais pas mis un orteil dedans. Là, on enregistre l'épisode, il est début mars, et j'ai vu cette semaine qu'il avait neigé à Las Vegas. Donc voilà, en hiver, les températures peuvent descendre bien bien bas. Il n'est plus question d'aller barboter dans l'eau.
Oui, alors ça, je pense qu'il faut tempérer un peu. Moi, quand j'y étais allé il y a 10 ans, c'était pareil, c'était début mars, c'était exactement cette période-ci. Et il y avait quasiment fait 20 degrés durant tout le séjour. Donc d'une année à l'autre, je pense qu'il peut y avoir des variations. Et si à l'époque, je n'aurais pas non plus plongé dans une piscine, ça se faisait très bien avec une simple veste pour se balader dans la ville. Donc à choisir, je pense que je préférais même y aller à cette période-là qu'en plein été. En plein été, il faut rappeler que Las Vegas, c'est une ville qui est dans le désert. Donc il fait vraiment très chaud, faut pas espérer se promener dans la ville très facilement sous peine de griller. Par contre, les casinos ont bien sûr l'air conditionné, donc on peut toujours s'y réfugier.
Après, il y a peut-être juste une petite attention à avoir par rapport aux différentes manifestations qui ont lieu sur place. Las Vegas, c'est une ville qui accueille plusieurs conventions par année. Et durant ces conventions, là, les prix, c'est plus flambé qu'ils font, mais c'est l'explosion totale. Si vous n'avez pas d'intérêt par rapport à ces manifestations, évitez d'y aller à ce moment-là. Ça fera un bien fou à votre portefeuille.
Mais qu'est-ce que je raconte? Vous êtes des pros tous les deux, les meilleurs. Je suis persuadé que vous sortirez du casino. Mais je vous rappelle, sans vous offenser, qu'une fois que vous aurez mis le pied dehors, vous serez encore au milieu de ce foutu désert!
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head?
Et donc la question rituelle, est-ce qu'on y retournerait? Personnellement, Las Vegas côté strip, je pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Les casinos c'était beau, mais ça ne nécessite pas une deuxième visite. Par contre, j'ai un petit regret de ne pas avoir pu accorder plus de temps aux visites annexes de la ville. J'avais noté notamment les sculptures des Seven Magic Mountains. Ce sont des énormes blocs de pierre peints de couleurs vives et empilés pour faire des espèces de totems de pierre gigantesques. Apparemment, c'est assez impressionnant à voir. Le Neon Museum, qui regroupe des anciennes enseignes lumineuses de casinos. Le National Atomic Testing Museum.
Il avait l'air assez rigolo celui-là.
Ouais. Bah, après, maintenant qu'on a fait plusieurs musées des États-Unis, connaissant leur art de la scénographie, à mon avis, il devait être assez fun à voir. Même si le sujet...
Les tests atomiques dans le désert du Nevada, peut-être pas, mais...
C'est pas le sujet le plus rigolo au monde, mais ils sont forts dans leur scénographie muséale. Généralement, on s'amuse bien, on rentre bien dans le sujet et j'ai pas de doute sur le fait que celui-là ne déroge pas à la règle. Et sur la route entre la vallée de la mort et Las Vegas, l'International Car Forest of the Last Church, qui est une plaine où sont plantées des voitures, mais vraiment plantées des voitures.
C'est une forêt de carcasses de voitures.
C'est une forêt de carcasses de voitures peintes, taguées. Donc c'est une espèce de street art dans le désert. C'est un lieu qui a l'air assez particulier. Et enfin, de nouveau sur la route entre Las Vegas et la vallée de la mort, le Ash Meadows National Wildlife Refuge. Un petit parc qui avait l'air d'avoir aussi du potentiel point de vue paysage. Donc voilà, on est loin d'avoir épuisé ma liste de visites dans le coin. J'ai pas spécialement envie d'y retourner pour la cause, mais si un jour on me propose de repasser par là, j'ai ma liste qui est prête et ce sera avec grand plaisir que je me plongerai dedans. Dans Las Vegas même, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps et je regrette un petit peu qu'on n'ait pas eu l'occasion de sortir du strip parce que dans mon imaginaire, Las Vegas, cette grande avenue avec des casinos au milieu du désert et rien autour, alors que c'est pas vrai, il y a une ville qui est immense. On l'a vu en arrivant, on est arrivé de nuit, donc la ville était illuminée, donc on voyait le strip avec les lumières qui brillaient beaucoup plus et qui étaient beaucoup plus grandes à cet endroit-là, mais la plaine lumineuse était immense, ça laissait deviner la taille de la ville. Et j'ai lu qu'il y avait quand même des choses intéressantes en dehors du strip, notamment un quartier avec pas mal de street art. Ici, avec ce qu'on a fait, ben moi j'ai gardé mon image de strip au milieu du désert. C'est vrai qu'on est arrivé par l'autoroute, on a plongé dans le strip. Et en repartant, ben c'est pareil, ce boulevard replonge directement dans le désert. Et donc ben pour moi, à Las Vegas, ça reste des casinos perdus au milieu du désert.
Moi, retourner à Las Vegas, je dirais pourquoi pas. Tu dis que de ton côté, tu penses avoir tout vu du strip. Je pense que c'est pas vrai, je pense que t'as pas tout vu. Pour ce qui est du reste de Las Vegas, on n'est pas non plus allé jusqu'à Fremont Street, du côté du Golden Nugget par exemple, avec cette rue qui est recouverte d'un espèce d'écran géant qui change au fur et à mesure qu'on passe dedans. C'est une vue aussi assez iconique de Las Vegas. Donc voilà, je dis pas que j'irai chaque année à Las Vegas, mais une fois tous les 10 ans, je pense que c'est un bon ratio. Du côté de la Valley of Fire, on n'a pas non plus tout vu, mais j'hésiterai à y retourner parce que j'aurais un peu peur que ça ne me plaise pas autant que la première fois. J'ai eu tellement le coup de cœur pour cette première fois que pour peu que les conditions soient moins favorables la deuxième fois, j'aurais trop peur que ça ternisse un peu ma super bonne impression du lieu.
Vous allez me virer ce gars de l'établissement et vous allez le virer sans que ses pieds touchent terre et en ouvrant la porte avec sa tronche.
Monsieur, il va falloir que vous partiez. Si vous voulez nous suivre dehors...
C'est tout ce qu'on avait à dire sur Las Vegas et sa région. J'espère que vous avez apprécié ce 10e épisode de Partir un jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner via iTunes ou via le flux RSS, ou même à nous suivre sur Spotify. Vous pouvez également laisser vos commentaires et nous poser vos questions sur nos blogs respectifs. Moi, c'est sur notevoyageur.eu. Toi, Aurélie, c'est sur...
sautdepuce.fr avec des tirets.
et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui portera sur
les parcs nationaux de Zion et du Grand Canyon.
D'ici là, bon voyage.
Bon voyage.
A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be lady tonight.
Wait to cross Las Vegas Boulevard.